Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette liturgie du dimanche des rameaux nous fait traverser en une seule cérémonie pratiquement toute la semaine sainte, en commençant par cette procession glorieuse, notre Seigneur Jésus-Christ accueilli par les foules. Et ensuite, dans la messe, ce ton plus grave, cette lecture de la passion à partir de l'agonie de notre Seigneur et donc jusqu'à la fin, jusqu'à la mise au tombeau. Jésus donc, aujourd'hui, nous le célébrons comme entrant à Jérusalem, comme un roi, mais sur un ânon, selon la prophétie de Zacharie. Il organise volontairement ce geste, comme nous le voyons dans l'évangile donc de la bénédiction des rameaux. Il se laisse acclamer parce qu'il accomplit les Écritures, mais c'est sans illusion. De sa part, c'est un acte messianique profond, mais les foules se trompent sur la nature de son règne. La question est la suivante, pourquoi il y a tant de monde à l'accueillir glorieusement à Jérusalem ? Le dimanche des rameaux. Pourquoi il y a tant de monde à l'écouter prêcher dans le temple lundi, mardi, mercredi saint? Tout le monde, beaucoup de monde le suivent. Pourquoi il ne reste qu'une poignée de personnes qui l'accompagnent sur le calvaire? C'est ça, mes bien chers frères, la question que nous devons nous poser. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a un problème sur la manière de comprendre ce qu'est le Messie. Et ce problème, il persiste aujourd'hui, même chez les chrétiens. La plupart des personnes qui l'acclament à l'entrée de Jérusalem attendent un Messie conquérant. De même, aujourd'hui, certains chrétiens attendent un Messie puissant, voir un grand monarque, n'est-ce pas, qui pourfendrait les infidèles et autres pécheurs avec son Excalibur bien brillante. Tout ça, c'est évidemment de l'illusion. Tout ça ne correspond pas à ce que nous venons de méditer, à ce que nous méditerons pendant cette semaine. Nous allons bien sûr y revenir. Jésus lui-même répond à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Regnum meum non est de hoc mundo. » Des rameaux au calvaire, nous sommes d'une certaine manière cette foule, je viens de le dire. Nos illusions sur Dieu nous rendent inconstants, instables, révoltés même parfois, quand Dieu ne fait pas ce que nous espérions. Et donc revenons sur ces différents éléments. D'abord sur nos fausses représentations du Messie et du salut. Fausses représentations qui, des pharisiens, qui eux étaient opposés bien sûr à notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon eux, prenaient leur place et ils avaient peur des Romains et ils avaient peur que, avec notre Seigneur, les Romains les persécutent. Cette vision des choses, elle existe dans cette foule qui accueille notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'accueillent comme un roi parce qu'ils attendent effectivement un roi, un Messie temporel. Les foules l'acclament « Hosanna au fils de David ». David, n'est-ce pas ce grand roi d'Israël, pratiquement fondateur du royaume d'Israël, qui prospérera sous le règne de son fils Salomon, le roi de paix. Que voient ces personnes en notre Seigneur Jésus-Christ? Un roi selon leurs attentes, un libérateur politique, un chef qui va restaurer la gloire d'Israël, qui va chasser les Romains, rétablir la prospérité nationale On pense au grand monarque des Français, n'est-ce pas? Elles chantent la venue d'un royaume, mais elles en déforment totalement le visage. Cette confusion ne s'est pas dissipée à travers les siècles, je viens de le dire, et je veux insister sur cela. Parce que ces fausses prophéties qui circulent, nous savons par la foi qu'elles sont fausses. Nous le savons parce qu'elles sont manifestement et explicitement contraires à l'Évangile, à ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ sur la nature de son royaume, sur la nature de sa royauté, non seulement donc sa nature théorique, mais aussi sa nature pratique, c'est-à-dire sa manière d'agir en tant que roi qu'il est effectivement. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il ne vient pas avec des chars, il ne vient que sur un ânon. Il n'élève pas sa voix dans la rue, il va au devant de la passion. Il n'impose pas son royaume par la force, il l'établit par la croix. Et notre Seigneur n'a jamais été ambigu. Pendant ce carême, nous avons lu et relu les passages principaux des évangiles sur le Sauveur, sur notre Seigneur. Combien de fois a-t-il prévenu non seulement ses apôtres, son cercle le plus proche, ses disciples, mais encore toutes les personnes qu'il a rencontrées sur sa route, toutes ces foules auxquelles il a prêché, pour lesquelles il a fait des miracles? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit? Il leur a annoncé la croix. Il leur a annoncé que celui qui veut être son disciple, il doit prendre sa croix, il doit le suivre. Donc Jésus n'a jamais été ambigu. Si ces personnes se trompent, sont déçues, comme nous le verrons avec nos fameux disciples d'Emmaüs, c'est vraiment un exemple caractéristique d'ailleurs, nous sommes déçus, on pensait qu'il allait rétablir le royaume d'Israël, etc. Nous sommes tristes, mais notre Seigneur les secoue, il leur dit même qu'ils sont insensés, stulti. Et nous le sommes souvent, parce que nos projections sont fausses. Beaucoup de nos visions de salut sont déformées. C'est comme si nous ouvrions une boîte de Pandore avec nos attentes de puissance, de domination, de sécurité immédiate, tout ce que Jésus n'a jamais promis. Et vous le savez, la boîte de Pandore, cet objet mythique, bien entendu, mais hautement symbolique, nos illusions, eh bien, elles mènent à des catastrophes, elles sont dangereuses pour la vie spirituelle. Sans aller jusque dans ces visions extrêmement fausses sur la nature du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autres acclament Jésus avec ferveur, bien entendu, mais tant qu'il les comble. On peut se rapprocher du cercle de notre Seigneur, ses disciples qui ont parcouru toute la Terre Sainte à sa suite, qui ont vu quasiment tous les miracles qu'il a fait, et ils étaient très nombreux. Ils ne sont plus là, au pied du calvaire. Nous pouvons être, malheureusement, et nous sommes souvent aussi, cette foule. On acclame Jésus avec ferveur, on le prie avec ferveur quand il nous comble de grâce, quand on ressent sa consolation. Il est Messie tant qu'il guérit, nourrit, apaise, mais quand il commence à parler de souffrance, de croix, d'abandon, les voix se taisent, parfois se retournent. Le peuple de Jérusalem, comme nous, peut facilement passer de Hosanna à l'indifférence, ou pire, au rejet, au reniement. Notre Seigneur, au contraire, n'a jamais promis le confort, il a promis la vie éternelle. Mais à quel prix? À condition de passer par la croix. Donc, nous voyons à travers ces exemples, et nous devons nous positionner à travers ces exemples. Souvent, nous sommes cette foule. Soit cette foule qui s'illusionne, qui attend une prospérité, une nouvelle chrétienté, finalement, qui a des vues humaines. Soit nous sommes cette foule plus repliée sur elle-même, finalement, plus proche aussi de notre Seigneur Jésus-Christ, plus spirituelle peut-être, mais qui, aux premières épreuves, abandonne, s'impatiente. Notre foi, trop souvent, veut des résultats visibles, des conversions dans notre entourage, voire des miracles, des succès. Et quand Dieu se tait, et quand le monde ne change pas à notre rythme, notre enthousiasme, évidemment, s'effondre. Nous sommes comme toutes ces personnes. Nous sommes capables d'acclamer notre Seigneur, de le louer, et puis, quelques jours après, de l'abandonner, de nous décourager, de cesser de l'accompagner. C'est ça la réalité que nous devons méditer aujourd'hui. Nous devons entrer, mes bien chers frères, dans la vraie vision de Dieu. La vision du royaume de Dieu, c'est celle qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est roi, il l'est vraiment, il l'a dit, il l'a affirmé. Jésus ne corrige pas les acclamations du peuple, il s'y prête, il organise son entrée triomphale dans Jérusalem. Il demande à ses apôtres, allez chercher cette ânesse avec son petit, et on va rentrer triomphalement dans la ville de Jérusalem. Devant Pilate encore, déjà défiguré par cette nuit difficile, ce jugement inique du Sanhédrin, ces moqueries, ces coups qu'il a déjà reçus de la part des sbires, des chefs des prêtres. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le texte grec est beaucoup plus clair. « Ouk ektou kousmou toutou ». C'est beau le grec, n'est-ce pas ? « Mon royaume ne provient pas de ce monde-ci ». C'est beau parce que c'est plus précis que simplement « Mon royaume n'est pas de ce monde ». N'est pas de ce monde-ci. Ça signifie que le royaume de notre Seigneur est bien réel, mais il ne tire pas ses origines ni ses moyens de la puissance humaine. Il le dit à Saint-Pierre qui prend son glaive et qui s'attaque courageusement parce que au final il n'était que quatre, notre Seigneur et puis les trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean, contre toute cette troupe de soldats. Ils n'étaient pas des soldats. Il y a du courage, de la bravoure de la part de Saint-Pierre. Mais il se trompe. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, et si il le dit à Pilate, il dit à Saint-Pierre de rentrer son glaive, il lui dit, je pourrais appeler des armées d'anges, j'ai pas besoin de ton glaive. Et dans l'évangile de Saint-Jean, qui est un témoin oculaire de la scène, quand cette troupe intervient, ils ne connaissent pas forcément notre Seigneur Jésus-Christ, sa tête. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, n'est-ce pas ? Même s'il était célèbre, notre Seigneur. Donc, il dit, qui est Jésus de Nazareth ? Jésus dit, c'est moi. Et à chaque fois qu'il dit, c'est moi, ils se trouvent tous projetés par terre. Deux fois de suite. Voilà ce que nous rapporte Saint Jean. Donc là, Jésus aurait pu s'enfuir tranquillement. Il ne le fait pas. C'est pour montrer que son royaume n'a pas une origine de ce monde. Il le redit à Pilate. Si mon royaume était de ce monde, tu crois pas que j'aurais des armées à ma disposition et que je vous écraserais avec les armes ? Donc, Et il répète, donc, mon royaume n'est pas de ce monde. Il le dit deux fois. Donc il est bien réel, mais il ne tire pas son origine, ses moyens de la puissance humaine. Le Christ a voulu être roi en montant sur la croix. Et il veut régner dans les âmes par la vérité, la justice, la charité et la paix, disait le pape Pie XII. Donc, le Christ accepte même d'être roi. Il rentre à Jérusalem comme un roi, mais sur un ânon, pas un cheval de guerre. Il ne monte pas au palais, mais il montera au Golgotha. Il est acclamé, mais il pleure sur Jérusalem. Il reçoit volontiers les cris de joie, mais il sait qu'il marchera seul vers la croix. Il ne refuse pas le titre de roi, il en change le visage. Voilà comment il règne, non en dominant, mais en se donnant. Il règne en silence, en aimant jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il les a aimés, en pardonnant et à ses bourreaux. Voilà, mes bien chers frères, le roi que nous devons suivre. Voilà le royaume auquel nous sommes appelés. Donc, nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai disciple, ce n'est pas celui qui crie « Seigneur, Seigneur », qui acclame notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'acclamer comme roi, bien sûr. Le vrai disciple n'est pas celui qui l'acclame, qui le prie, qui l'aime uniquement dans la prospérité et quand il n'y a pas d'épreuve. Le vrai disciple, il n'attend pas la facilité terrestre. Il n'attend rien de ce monde. Il ne veut pas, il sait que sa vie n'est pas dans ce monde et que le royaume de notre Seigneur, finalement, transcende ce monde. C'est ça que nous devons considérer. Et pour atteindre ce royaume, c'est ce que dit magnifiquement d'ailleurs saint Benoît à la fin de son prologue, le prologue de la règle de saint Benoît, qui, selon certains chercheurs, aurait pu être ou extrait de certaines préparations baptismales. Vous le savez que le baptême nous fait passer de la mort à la vie. Il faut mourir à soi-même au péché. Donc c'est vraiment toute la démarche en fait de notre vie spirituelle. Saint Benoît résume toute notre vie en fait en disant ceci. Participons par la patience aux souffrances du Christ, afin de mériter d'avoir part également à son royaume, à son règne. C'est exactement cela. Le royaume de Dieu, auquel nous aspirons tous, et c'est légitime, s'obtient par la patience, par l'humilité, par la fidélité. Toutes ces personnes qui, dans le silence, dans l'humilité, ont suivi notre Seigneur jusqu'au bout, sans se préoccuper du reste. Les saintes femmes, évidemment en tête, Notre-Dame, la très sainte Vierge, qui est la personne qui, finalement, a le plus à être révoltée de cette situation, à être touchée de cette situation. Est-ce qu'on l'entend parler, agir pendant la Passion ? Non. Elle accompagne notre Seigneur Jésus-Christ. Elle souffre en silence. Elle est debout au pied de la croix. Elle sait que c'est le moyen du salut, que c'est le moyen d'établir le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien chers frères, c'est la devise du prieuré. Regnavit aligno Deus. C'est une devise qui nous a été léguée par notre cher Père. C'est une devise qui est une devise chrétienne, des plus anciennes. Des plus anciennes parce que, si nous la chantons dans le Vexilla Regis, elle est plus ancienne encore. C'est une glose chrétienne du psaume 95, qui a été supprimée, bien sûr, par saint Jérôme, parce qu'elle n'était pas conforme aux textes originaux. Mais c'est important de se rendre compte de l'ancienneté. Deus regnavit, nous dit, Dominus regnavit, nous dit ce psaume, et il a été ajouté depuis la plus haute antiquité chrétienne. Le Seigneur règne par le bois de la croix. Regnavit a ligno Deus. Dieu a régné depuis le bois, par le bois. C'est cette parole qui résume toute la vérité que nous contemplons aujourd'hui, que nous contemplerons cette semaine. Le Christ est roi, oui, mais son trône, c'est la croix. Sa couronne, ce sont les épines. Son sceptre, le roseau des moqueries. Et c'est là qu'il règne, véritablement, non pas en dominant, comme certains le voudraient, mais en sauvant, en se donnant. Il appelle donc chacun de nous à régner avec lui, en partageant sa passion, par la patience, par la fidélité dans l'épreuve. Tous les saints l'ont compris. La gloire du chrétien est cachée dans la croix. Donc rentrons, mes bien chers frères, entrons dans cette semaine sainte, sans illusion, en se débarrassant de ces illusions, en se débarrassant de cette idée d'un Christ glorieux, vengeur, qui nous épargnerait toute épreuve. Rentrons dans cette semaine sainte avec foi. Le roi est là, il règne déjà, mais à sa manière, c'est-à-dire par le bois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.